petit philosophe dans le vaste monde. Une émission proposée par Bernard Ribal. Bernard Ribal, essayiste, agrégé et docteur en philosophie.
Les premiers vaccins anti-Covid, Pfizer alliés à BioNTech et Moderna, ont été produits par ces trois entreprises, dont deux américaines et une allemande. Mais beaucoup de laboratoires et de pays ont contribué à leur découverte. La principale chercheuse, Kathleen Carrico, celle qui a le mieux étudié les capacités de l'ARN messager à la base de ces nouveaux vaccins, est une Américaine, mais une Américaine elle-même émigrée de la Hongrie communiste et travaillant dans une entreprise américaine dont le fondateur est un récent émigré de Turquie. Il faut dire que ce sont deux Français qui ont cerné et démontré les premiers le concept d'ARN messager en 1960, les professeurs François Jacob et Jacques Monod. Je viens déjà d'évoquer cinq pays, mais il faudrait citer une douzaine de laboratoires d'un peu partout. Dès lors, le vaccin et ses brevets ne devraient être la propriété de personne en particulier et d'aucun État. D'autant plus qu'une collaboration internationale a d'abord permis d'identifier le coronavirus avec une grande rapidité. Rapidité due en grande partie aux scientifiques chinois qui ont rendu leurs travaux disponibles. Cet apport chinois est incontestable, alors que les experts de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, n'ont pas prouvé qu'un laboratoire chinois soit à l'origine de la pandémie par une hypothétique négligence. Alors, c'est vrai, je n'ai pas l'habitude de défendre la Chine, loin de là, mais nous devons être justes. Kofi Annan, alors secrétaire général de l'ONU, avait tenté vainement de lancer l'idée de bien public mondial, mais ce projet a été repris en 2003 par la fondation DNDi, composée entre autres de Médecins sans frontières et de l'Institut Pasteur, des organismes français donc. Cette fondation propose aux laboratoires de ne pas demander de brevets pour les vaccins mis au point tout en conservant la propriété intellectuelle sur les molécules découvertes lorsque celles-ci, ces molécules, sont introduites dans d'autres médicaments qui, eux, ne sont pas des vaccins. Déjà, depuis longtemps, les laboratoires voient, je crois au bout de 10 ans, mais j'en suis pas sûr, leurs nouveaux médicaments tomber dans le domaine public, dans le domaine commun, le bien commun utilisable par tous. Les délais sont plus longs pour la protection des œuvres artistiques et littéraires, mais Molière et Mozart font partie du bien commun de l'humanité. Depuis toujours, l'enseignement social chrétien défend l'idée de la nécessité du bien commun qui n'est pas seulement un intérêt un intérêt général, mais qui peut être, entre autres, une sorte de propriété communautaire. Mais justement, ce n'est pas une propriété, je vais devoir l'expliquer. À ne pas confondre, d'ailleurs, avec le secteur public d'un État. L'air, par exemple, est un bien commun. Il n'appartient ni à des personnes privées, ni à des États. C'est ce que souhaite tour à tour Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, puis Emmanuel Macron le 1er mai 2020, qui déclare que, je cite, « les vaccins sont un bien mondial de l'humanité et pas la propriété de l'un ou l'autre ». Fin de citation. Dans ce sens, l'OMS, Organisation mondiale de la santé, a mis en œuvre le programme COVAX pour les pays pauvres afin de leur permettre l'accès aux vaccins. Pour l'instant, grâce à l'Union européenne et à la fondation Bill Gates, on arrive à couvrir 20% seulement des besoins de ces pays. Hélas, pour la planète, des pays riches sont les grands prédateurs actuels des vaccins pour leur population. Parallèlement, la Chine et la Russie distribuent leurs vaccins pour soigner leur image de marque dans les pays pauvres. A contrario, le pape, à Noël 2020, demande, je cite, « des vaccins pour tous », spécialement pour les plus vulnérables et les plus nécessiteux de toute la planète. Fin de citation. Une commission Covid-19 créée par François affirme le 29 décembre 2020 que, je cite, « les investissements dans le champ médical doivent trouver leur signification la plus profonde dans la solidarité humaine ». Fin de citation. Bref, la santé est un bien commun qui transcende la notion de propriété privée ou propriété publique. Depuis longtemps, la recherche fondamentale, dans bien des domaines, et pas seulement la santé, est un bien commun, qui est mis gratuitement à disposition des entreprises. Les communs du XXIe siècle ont des antécédents dans l'histoire. Elinor Ostrom, prix Nobel d'économie 2009, une américaine, principalement pour son livre « Gouvernance des communs », a créé une rupture épistémologique en économie qui ne connaissait que le secteur privé et le secteur public. Madame Ostrom introduit le concept de commun, des communs. En 2021, dans un livre à paraître qui s'appelle « Composer un monde en commun » aux éditions du Seuil, Gaël Giraud énonce 4 secteurs et non plus 2. Le privé, le public, ça c'est comme tout le monde, mais aussi les communs, et nous y voilà, et le tribal, c'est le communautarisme, les mafias, le djihadisme, la drogue, voilà. La santé, les vaccins, doivent se situer dans les communs, et non dans le privé ou le public, encore moins le tribal. C'est-à-dire dans des formes de gestion à gestion participative ou à échelle plus réduite, dans des coopératives. Pour mieux se faire comprendre, l'économiste Gaël Giraud reprend les théologiens grégoriens du XIe siècle, mais c'est une simple coquetterie du juriste économiste, que j'aime bien par ailleurs, car il s'agit tout simplement du droit romain de la propriété sous ses trois aspects. L'usus, c'est-à-dire le droit d'usage, le fructus, c'est-à-dire le droit de tirer profit, et l'abusus, le droit de détruire la propriété. Les communs, selon lui, ne gardent que l'usus, le droit d'usage et la gouvernance participative de ce droit d'usage. Le partage concerté de l'usage d'un objet qui n'appartient à personne. Pour notre propos, c'est le partage concerté de l'usage des vaccins sans droit de tirer profit, ni de détruire. Les vaccins doivent faire partie des communs. La pandémie actuelle peut aider à modéliser les vaccins pour en faire des modèles dans les secteurs de survie de l'humanité. Par exemple, la gestion de l'eau douce, de sa pénurie et des conflits afférents. C'est comme cela qu'Elinor Ostrom a découvert et mis au point le concept de commun, objet de son prix Nobel d'économie. Elle étudiait sur le terrain le partage désastreux d'une réserve souterraine d'eau douce dans le sud de la Californie. Ses distingués collègues pensaient qu'il n'y avait pas de solution compte tenu de l'avidité égoïste de chaque utilisateur. D'autres pensaient qu'il ne fallait qu'un seul gros propriétaire de la zone phréatique, et d'autres enfin que seul un pouvoir public pouvait gérer par la loi. Elinor Ostrom a parié sur la non-propriété, ni privée, ni publique, de la nappe phréatique et l'établissement concerté de règles raisonnables d'usage de l'eau. Ce fut un succès. Mais toutes les auditrices et les auditeurs auront compris que ces communs peuvent s'étendre à la gestion de l'atmosphère et du climat qui n'appartiennent à personne. Tout le monde aura compris que nos communs sont aussi les océans et leurs richesses, entre autres, halieutiques. Les communs pourraient être aussi les réseaux télématiques tels qu'Internet. Les ondes sont des communs, n'en déplaise aux GAFA.
C'était Petit philosophe dans le vaste monde, une émission de Bernard Ribal.